quel était le programme de Dieu? Est-ce que Dieu a fait campagne? Qui c'est qui a dit non? Il a fait campagne. Il a offert son Fils. Il nous a prouvé qu'il nous aimait. Il a donné les promesses avant. Il a réalisé avant. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu a donné aux hommes et aux femmes à tenir une place privilégiée dans son plan. Et ce matin, je vais essayer de m'attacher à la place des femmes. Donc après, je demanderai aux hommes de m'escorter. Voter pour Jésus et son programme. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la Bible. La Bible, c'est le programme de Dieu, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dedans, il a marqué tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il avait promis. Mais le programme, c'est qu'on ne consulte pas le programme, n'est-ce pas? Et on est surpris après. On vote oui, on dit oui, mais on est surpris. Alors, votez pour Jésus comme président de votre vie. J'aimerais qu'il soit le président de notre pays, mais au moins qu'il soit président de notre vie. J'espère que ça choque personne, mon image. Aujourd'hui, quand on veut élire quelqu'un, on regarde son programme. Et aussi les personnes qui sont dans son équipe. Mon intention n'est surtout pas d'influencer qui que ce soit sur ses intentions de vote, mais de regarder au programme proposé par Jésus et de commencer une réflexion sur la place de chacun dans ce programme. Dans les différents programmes des candidats, on voit « pour tel groupe de personnes ». Dieu n'a pas fait de séparation. Il n'a pas dit les gens de tel pays ou les gens de tel groupe. Il nous a mis en accord les uns les autres. Et j'ai marqué ici, le programme majeur de Jésus, c'est de réconcilier le monde avec son Père, en les sauvant sur la croix. Et j'ai marqué le deuxième qui est attaché au premier, c'est de bâtir son Église. Voilà le programme offert dans lequel Dieu nous dit, venez et je tiendrai mes promesses. Alors, voilà ce qu'il a déjà fait. Jésus a déjà payé le prix de notre réconciliation avec son Père. On a l'impression, notre sœur tout à l'heure parlait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est le fruit d'un cœur transformé, la grâce. Vous avez été sauvés par grâce afin que personne ne se glorifie et vous avez été préparés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance d'aller au club de dames de Vigneux-sur-Seine. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu ne fait pas de promesses qu'il n'est pas capable de tenir. Il dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'invente pas des choses. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut être notre chef, notre autorité, un chef autoritaire. Il prouve son amour. Dieu a un intérêt pour chacun de nous. Nous avons une valeur telle, nous sommes tellement précieux à ses yeux, qu'il a donné son Fils. Des fois, on oublie ça. Quand on sort de notre bouche, vous savez, quand on est découragé, quand on a eu un problème, quand on a raté quelque chose, je n'ai plus aucune valeur. C'est pas vrai. J'ai un grand prix devant Dieu. Dieu m'aime. Dieu ne veut pas que dans notre cœur, on arrive à croire qu'il ne nous aime plus. Et Dieu l'a prouvé. La deuxième partie, l'élaboration de son Église, Dieu veut que nous ayons un rôle à jouer. Vous savez que Dieu n'avait pas besoin de nous, il n'avait pas besoin des pasteurs, il n'avait pas besoin des églises, il n'avait pas besoin des croyants. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais il a décidé de nous utiliser pour sa gloire. Et il a donné un cadre à chacun. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, de significatives et stratégiques, chacun peut porter sa contribution. Dieu n'a pas exclu. Ce matin, on parlait de l'ANPE parce que des sœurs, majoritairement, ont un travail. Mais vous savez que dans l'Église de Dieu, dans le corps de Dieu, il n'y a pas de chômage. Nous pouvons travailler tous les jours pour Dieu avec un cœur joyeux, avec un cœur heureux, de pouvoir participer à l'élaboration de son Église. Nous avons le plus beau message, mes amis. Et des fois, on n'y croit pas. Nous avons la plus belle vérité. Nous avons la plus belle preuve d'amour. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Pour examiner le programme, nous avons besoin de regarder en arrière pour un modèle. L'expansion de l'Église au 1er siècle, c'est notre livre d'histoire. Mais c'est aussi notre mode d'emploi. C'est le cahier des charges. Afin de décider si nous serons inclus, il est bien de considérer si nous correspondons aux critères. On n'a pas de lettre de motivation à faire. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur les femmes dans le programme. Il y a à ce sujet beaucoup de controverses. Et je souhaite regarder non pas ce que je pense, mais ce que dit l'Écriture. Je vous propose de regarder à quelques-unes qui ont influencé le mouvement. Tout d'abord, Dieu, pour faire répandre son Église, répandre son message, avait créé une équipe. Dans cette équipe, il avait mis Barnabas, il avait mis Marc, il avait mis Silas, Timothée, Tite, Luc, Aquilas, Épaphrodite, Apollos, Épaphras, Tychic, Aristarque, Démas, Sylvain, pour en nommer quelques-uns. Des hommes qu'il a sélectionnés, des hommes qu'il a appelés, des hommes qui ont permis que l'Évangile soit communiqué. Mais il avait aussi choisi des femmes. Entre autres, Damaris, Lydie, Priscille, Phobé, Marie, Tryphène, Tryphose, Nymphée, Évodia, Saint-Tiche. C'est vrai qu'il y avait des femmes. Et c'est vrai que notre Dieu a une place privilégiée pour chacune des personnes qu'il appelle. Ce qui est intéressant, c'est que quand la Bible nous parle des gens que Dieu utilise, de ces pierres précieuses, il utilise des fois selon leurs tâches. Ici, on a Timothée, serviteur du Christ Jésus. Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs. Timothée, mon collaborateur. Tite, mon associé, collaborateur. Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le Christ. Épaphras, serviteur du Christ Jésus. Urbain, notre collaborateur dans le Christ. Le centre, c'est pas Paul. Si vous lisez bien le texte, c'est qui? C'est Christ. Nous sommes collaborateurs et collaborateurs de Christ pour une tâche extraordinaire. D'autres fois, Dieu ne parle pas simplement de la tâche, mais il parle avec affection. Timothée, le frère. Timothée, mon enfant bien-aimé, fidèle. Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Timothée, mon enfant. Timothée, mon enfant bien-aimé. Tite, mon frère. Luc, le médecin bien-aimé. Apollos, le frère. Andronicus, Junias, mes parents, mes compagnons de captivité. Épaphras, mon compagnon de captivité. Persis, la bien-captivité. c'est la bien-aimée en captivité, j'ai oublié. Clément, vrai compagnon, Tite, mon compagnon. Comment on appelle nos frères et sœurs? Et toi, la dame du fond, la sœur. Mes amis, il y a quelque chose à apprendre. Si Dieu nous pense que nous sommes tellement précieux à ses yeux, déjà apprenons comment s'appellent nos frères et sœurs. Arrêtons de les appeler la sœur, le frère, l'autre, la dame, le monsieur qui passe de temps en temps. Ils ont un nom. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ces deux listes, c'est que l'écrivain a pris le soin, non seulement de citer leur nom, mais en plus d'y associer quelque chose, à la fois leur tâche et à la fois l'amour. Dieu a payé un prix immense pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et c'est avec affection que Dieu en parle. Lundi, Lydie, Nymphas, Phobée, Priscille, Évodia, Saint-Tiche. En voilà des noms de femmes. En route pour Philippe, Paul s'arrête le jour du sabbat. Nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Les femmes étaient là. Les hommes ne sont pas souvent là au moment de la prière. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Elle nous a pressés instamment. Lydie, une femme d'affaires, une femme très occupée, chef d'entreprise, qui accepte le Seigneur, qui s'attache au Seigneur Jésus et qui invite les serviteurs d'aller chez elle, qui permet à ceux qui sont en âge de croire d'accepter le Seigneur et d'être baptisés. Quel beau modèle. Mesdames, êtes-vous trop occupées dans vos tâches, dans votre métier, pour ne pas accueillir le Seigneur Jésus dans vos vies, pour ne pas laisser de temps? Ce n'est pas accusateur. C'est simplement le cœur de cette femme, femme d'affaires, femme connue, femme d'influence. Alors, dans les textes, on va en trouver d'autres. Au chapitre 17 de Thessalonique, où Paul et Silas sont menacés, on les fait partir de nuit pour Bérée, ville française. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux qui avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux, divinement croyants, ainsi que divinement avertis, pardon, devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre, des femmes de haut rang. Vous êtes des femmes de haut rang, mesdames. Vous êtes des femmes de haut rang. Vous êtes des femmes d'influence. Dieu vous a choisies pour être des femmes influentes. Dans votre famille, on le verra plus tard. Dans votre travail, dans votre ville, auprès de ceux qui vous entourent. On n'a pas besoin d'être chef d'entreprise pour être quelqu'un d'influent. On n'a pas besoin d'être vendeuse de pourpre. On a juste besoin d'avoir un cœur bien disposé. Un cœur ouvert. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants ainsi que des femmes grecques. Et c'est au milieu d'un grand défi, mes amis. Les chefs religieux sont en train de chasser à nouveau Paul et Barnabas. il doit fuir. Et là, des femmes croient. Dans l'épître aux Colossiens au chapitre 4, quand Paul écrit, il dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée ainsi que Nympha, c'est une dame, et l'église qui est dans sa maison, nos petits groupes de semaine. » C'est une porte ouverte extraordinaire à l'évangile, un moyen d'accueillir, un moyen de recevoir, un moyen de montrer que sous ce toit, nous aimons Dieu. Ces femmes ont ouvert leur maison. Dans l'épître aux Romains, où, si j'ai bonne mémoire, 10 noms d'hommes et 9 noms de femmes sont nommés, Paul dit : Je vous recommande Phébé, notre sœur, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour que toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. Parfois, on a du mal à accueillir les autres, n'est-ce pas ? Tel frère, telle sœur, on n'a pas trop d'atomes crochus. Et on a besoin d'appeler un tel ou un tel pour savoir si vraiment je ne risque rien. L'apôtre Paul a pris soin de présenter cette femme avec tout son amour, avec tout son ardeur. Et là, il dit « Je vous la recommande. C'est une sœur en Christ. Recevez-la. Faites ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse aller bien. » Au chapitre 3, au verset 3, il est parlé de Prisca et Aquilas, un homme, une femme, mes collaborateurs en Christ. Au chapitre 16, verset 6, Marie, la mère de Jean-Marc, qui s'est donné beaucoup de peine. Mes amis, l'Église du 1er siècle a pris son essor parce que des hommes et aussi beaucoup de femmes ont donné de la peine, ont donné de l'énergie, ont accueilli dans leur maison, ont permis à l'Évangile, à des églises, de prendre naissance là, en ouvrant la porte de leur foyer. Au verset 12, Tryphène et Tryphose, deux dames, elles qui se sont données de la peine. Données de la peine dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui s'est donné beaucoup de peine. C'est incroyable de voir que finalement, on arrive à découvrir presque en relisant l'Écriture qu'être chrétien, qu'être serviteur ou servante de Dieu, ça demande de la peine. Beaucoup de transpiration pour que l'Évangile pénètre. Mais ça vaut la peine. Parce que nous travaillons pour, on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur Jésus. C'est pour lui, c'est pas pour les hommes. Nous ne sommes pas au service des hommes, nous sommes au service de Dieu pour faire paraître, pour étendre son royaume. Au verset 15, Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, ainsi que l'impasse et tous les saints qui sont avec eux à l'église. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le plus bel ouvrage. Et mes sœurs, vous êtes privilégiées devant Dieu de pouvoir le connaître, de pouvoir le servir, de pouvoir l'honorer avec une tâche particulière. Alors, pour la forme, j'ai pris Philippiens 4, 2, parce que c'est là. J'encourage Évodie, j'encourage Saint-Tiche. On a vu tout à l'heure, c'est des collaboratrices, à être bien d'accord. La version seconde dit, arrêtez d'avoir des bagarres. Ça arrive si peu entre nous. Oui, toi aussi, fidèle collègue, le pasteur local, je te demande de les aider, non pas de les punir et de les expédier. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Aide-les à résoudre leurs problèmes. aide-les à déposer leur fardeau, à regarder dans la... Vous savez que s'aimer, j'aime cette définition, c'est s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre. Mais, quelqu'un connaît la suite ? C'est regarder dans la même direction. Et parfois, on se regarde l'un l'autre, hein ? Mais pas avec les yeux qu'il faut, hein, c'est plutôt les yeux qui tuent. Si tu ne changes pas d'avis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, Évodie, Saint-Ige, ses collaboratrices, celles qu'il aime. Il demande à ce que le serviteur les aide pour résoudre leur conflit. Paul avait ce privilège de superviser une grande équipe. Mais pour chacun, il avait un soin constant. Il n'avait pas ses portables, il n'avait pas ses emails, mais il avait sa plume et il écrivait des lettres. Combien on aime lire des lettres, non ? Pas juste les SMS rapides, mais de lire des lettres, de lire quelque chose. Des fois, les SMS ont de la valeur, hein ? Même des tout petits mots. Mais combien plus précieux on prend quand on peut lire ce qui se passe ? Développe un petit peu ce que tu vis. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs fois ce que Dieu est en train de faire avec ces trois jeunes. Et elles en ont des choses à dire. Et combien c'est intéressant d'entendre les détails, par quel cheminement Dieu les fait passer. Et ça serait tellement intéressant de savoir par où Dieu est en train de vous faire passer les uns les autres. De savoir que Dieu est avec vous, mesdames. Que Dieu vous équipe et que Dieu ne veut pas de ces conflits qui larvent son corps. Dans Actes chapitre 18, verset 24, on trouve un détail intéressant. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et déjà versé dans l'Écriture, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, et il a enseigné, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse pas le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue, et là, regardez bien, Aquilas, si vous pouvez dire, oui, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Priscille était là, avec son mari, elle formait équipe. Et elle va aider ce serviteur plein de zèle, versé dans l'Écriture, qui aime Dieu, et qui n'avait certainement pas envie qu'on lui dise que dans sa prédication, il y avait des erreurs. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent, écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Même programme qu'avec Phobé, même programme qu'avec les autres. Voilà, on a pris du temps, on a prié ensemble, on est d'accord. Priscille a participé à ça, et elle a certainement signé en bas de la lettre. Je suis d'accord. Mes amis, vous faites partie de cette équipe extraordinaire que Dieu appelle sur notre terre pour faire partie de l'expansion de son royaume. C'est la plus belle promesse. Nous sommes outillés, équipés pour le faire. Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 9. Quand Dieu a une place à part, ce qui est extraordinaire, c'est que souvent Dieu fixe un cadre. Comment le faire ? Dans quels moyens le faire ? Et souvent, notre problème, c'est que on veut bien servir, mais on sert hors du cadre. Et là, il est dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'est pas moins de celle qu'on va aider, n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été la femme d'un seul homme, qu'elle ait le témoignage de ses belles œuvres pour avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints pour être venu en aide à ceux qui sont dans la détresse et s'être attaché à toute bonne œuvre. Voilà le cadre que Dieu fixe. Pour que ces femmes qui arrivaient à un certain âge ne pouvaient plus se marier, leur mari était décédé, elles n'avaient plus de famille pour s'occuper d'elles. Et leur vie, leur témoignage parlait. Et là, Dieu fixe comment les femmes doivent travailler, stabiliser le foyer, rôle important auprès des enfants, des frères, des sœurs dans l'assemblée. Exercer l'hospitalité. Accueillir l'Église dans sa maison. Voilà le cadre. Voilà le cadre que Dieu donne. Un rôle vital dans la conduite de leur foyer, en accueillant l'Église chez elle, en étant et en formant équipe avec leurs époux dans le ministère. Dans la première épître de Pierre au chapitre 3, à ceux qui se sont convertis, qui avancé dans la vie et qui d'un seul coup ont rencontré Jésus-Christ et qui ont un mari non-croyant. La Bible dit qu'il leur demande, c'est le verset 7 qui leur dit, « Ne parlez pas, n'ayez pas sans arrêt des mots dans votre bouche, mais par votre conduite, amenez votre époux à rencontrer le Seigneur. » Quelle belle tâche, non ? Non pas en argumentant, non pas en le traînant à l'église par les cheveux, en disant « tu dois venir !» Mais par notre attitude, par votre attitude de cœur. Parce que Dieu est en train de changer dans votre vie, en silence. J'aime ce texte, non pas parce qu'il est silencieux, mais parce qu'il nous intime les uns et les autres à avoir une vie changée. C'est ça que les gens doivent voir. Une vie transformée, pas juste des mots. Dans 1 Samuel 16, hein, j'ai cité tout à l'heure dans ma prière, Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. En étant partenaire, les femmes avaient ce rôle dans l'équipe de Paul de pouvoir être partenaire, de pouvoir aider, de pouvoir promouvoir, de pouvoir permettre à l'Évangile d'être transmis. En faisant partie des infrastructures mises en place pour le développement de l'œuvre de Dieu. Combien de fois j'ai été accueilli par des femmes, par des hommes, par des couples, par des gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi, mais qui, parce que Dieu m'avait envoyé dans leur ville, dans leur village, m'ont ouvert leurs portes. Il n'y avait pas de lettre de l'apôtre Paul en disant « Recevez Jean-Claude ». Il y avait juste « Voilà, le Seigneur nous a envoyés là ». Et ils ont pris soin de moi, comme ils ont pris soin de plein de serviteurs de Dieu, comme peut-être ils ont pris soin de vous. Un rôle vital, mes amis. Alors, ce qui est intéressant, et je vais arriver à la fin pour ce matin au moins, dans Éphésiens 5, au chapitre 22, vous savez ce verset magnifique que les hommes connaissent par cœur. Éphésiens 5, 22. Tu veux un petit coup d'Éphésiens 5, 22 aujourd'hui, ma chérie ? Femmes, soyez soumises à vos maris. Et c'est marqué quoi ? Comme au Seigneur. Tiens, ça on ne le cite pas trop. Hein ? On prend la première partie, on l'abroge un peu, on dit femmes, soyez soumises. Comme au Seigneur. Ce qui est très dommage, c'est que juste derrière le verset 22, il y a le verset 23 qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. » Ah, on va lui demander pourquoi il a mis ça. Je disais, Seigneur, c'était bien si tu étais arrêté au 22. Mais enfin, tu avais enlevé le 21 aussi parce qu'il y avait marqué de se soumettre les uns aux autres. Dans Colossiens chapitre 3, verset 18, il est rappelé à la femme d'être soumise à son mari, comme au Seigneur, celui-ci ayant le rôle de direction. C'est lui le capitaine de navire, le commandant de bord. L'image de Dieu, c'est que Dieu a donné aux hommes la direction et aux femmes d'être coéquipières. Ce n'est pas quelque chose qui est humiliant, mes sœurs. Nous avons des choses à apprendre les uns des autres. Apprendre à collaborer. Apprendre à remplir notre tâche dans le cadre où Dieu nous a fixé les choses. Dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7, je l'ai cité tout à l'heure, à l'épouse qui a un mari inconverti, parce qu'elle s'est convertie après son mariage, la femme est invitée à gagner son mari sans parler. Ça, c'est plus difficile. Mais par son témoignage de la fidélité au Seigneur. Sans parler. Parfois, vous savez que les grandes guerres se gagnent dans le silence. Vous savez que quand on commence des batailles de mots, Paul exhorte souvent ses collaborateurs, Timothée et Tite, il dit « Évite, évite les disputes de mots. Les discours de femmes, hein, il dit. Vous ouvrez la porte, messieurs, parce que je vais bientôt m'en aller. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9, Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25, nous avons besoin d'être soumis à nos autorités. Là, dans le texte, c'est aux les esclaves. Nous sommes des esclaves, vous savez ça ? Doulos, serviteur. Mais c'est esclave. Le mot, c'est esclave. On lutte contre l'esclavagisme, n'est-ce pas ? Et on a bien raison. L'avilissement des gens, l'asservissement des gens. Mais on a besoin de se rappeler que, par choix, nous nous sommes rendus serviteurs et servantes de Christ. Par choix. Pas forcés, pas contraints. Dieu ne nous a pas tordu le bras. Mais il nous a mis dans son équipe pour servir chacun à sa place, de la manière où Dieu a choisi. Alors je termine avec ce verset de la première épître à Timothée, chapitre 2, dans les versets 11 à 15, où Paul dit « Il n'est pas permis à la femme d'enseigner, de prendre la place d'autorité sur l'homme, parce que ce n'est pas la place que Dieu lui a réservée. » Voilà ce que dit la Bible. Pour une bonne collaboration, nous avons besoin de savoir là où nous devons nous tenir les uns les autres, pour le meilleur service de Dieu, pour l'avancement du royaume. C'est comme ça, mes amis, que pendant 39 ans, l'Église a grandi. Et puis le premier siècle aussi, et puis le deuxième siècle aussi. Et si l'Église est arrivée aujourd'hui, là, au 21e siècle, c'est parce que les hommes et les femmes se sont conformés à la parole de Dieu. Nous avons, hommes et femmes, des places précieuses, n'est-ce pas ? Nous aspirons souvent à faire ce que les autres font. Nous voudrions une place moins humiliante, plus en vue. Mais Dieu nous a appelés dans un contexte, et j'aimerais dire ce matin que si chacun d'entre nous, hommes et femmes, on remplit bien notre tâche, c'est alors au Christ que nous aurons des comptes à rendre. C'est alors que nous pourrons découvrir ensemble les promesses qui vont avec l'obéissance à Dieu. C'est alors que nous verrons bizarrement l'Évangile se propager. Vous savez, ce verset de l'Ancien Testament du deuxième livre des Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. Ce n'est pas un verset concernant l'Église. Ce n'est pas un verset qu'on va utiliser pour faire avancer l'Église, mais c'est un verset qui s'adresse à toute personne qui fait partie du peuple de Dieu. Il est marqué quoi ? Il est marqué « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom », là, appris par cœur, là, dans le programme 52, « s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je guérirait son pays. » Mes amis, nous avons besoin de revisiter l'Écriture. Ce matin, je n'ai fait que lire l'Écriture. Nous avons besoin de revisiter ces textes, de les regarder à nouveau, pour que chacun d'entre nous, nous puissions être vraiment au service de Dieu et à la place où Dieu nous veut. Et mesdames, j'aime à vous dire, d'après ces textes, que Dieu vous a réservé une place vitale, une place importante, qui n'est pas la place des hommes, qui est la place des femmes. Et que si chacun d'entre nous, hommes et femmes, devant Dieu, « Seigneur, aide-moi à tenir ma place. Équipe-moi pour que je marche selon ta voie, selon ta volonté, dans ton cadre. Ne me permets pas d'être orgueilleux, orgueilleuse. Ne me permets pas de jalouser le don des autres. Mais avec les dons que tu m'as donnés, de servir Dieu. Alors en conclusion, les femmes dans le programme de Christ au sein de son deuxième plus grand projet ont une place considérable, importante, vitale. Faites-vous partie de cette équipe. Une équipe de campagne. Tout à l'heure j'ai dit, est-ce que Dieu a fait campagne ? Oui, il a fait campagne. Depuis Genèse chapitre 3, vous savez, quand l'homme et la femme ont décidé de couper le lien, le cordon ombilical, de désobéir, de sortir du cadre, d'écouter d'autres voix qui disaient « Oh, mais ailleurs, oh, mais tu sais !» Là, déjà, Dieu a dit qu'il sauverait le monde, qu'il n'avait pas changé son plan, et que son plan, c'était de pouvoir permettre à des hommes et à des femmes de rencontrer Jésus-Christ. Mais à cause de la désobéissance, nous portons aujourd'hui la marque de la flétrissure. Et aujourd'hui, nous avons besoin de nous remettre devant Dieu pour le servir d'une façon juste, honnête et droite, pour l'avancement de son royaume, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont autour de nous, afin, même la Bible dit, de ne pas blasphémer sa parole. En ce jour d'élection, il serait bien de voter pour Jésus-Christ. De nombreuses promesses accompagnent le programme et nous avons déjà constaté que lui, il tient ses promesses. Alors choisissez la vie. On va prier. Seigneur Jésus, nous nous mettons devant toi aujourd'hui. Les hommes, les femmes. Et Seigneur, je veux te remettre toutes les sœurs que tu as mises parmi nous, toutes les sœurs à qui tu as donné des dons, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, toutes ces femmes que tu veux utiliser pour une marche vitale, pour un point considérable. Je veux simplement que tu parles à leur cœur ce matin. Que, Seigneur, nous puissions les traiter avec la valeur que toi tu leur donnes. Que nous puissions les encourager à remplir leur ministère dans leur cadre. Et que nous soyons des coéquipiers, des collaborateurs valeureux, qui les aiment, qui les soutiennent, qui marchent avec elles. Ô Seigneur, si aujourd'hui beaucoup de sœurs sont dans l'église, Seigneur, c'est pour l'avancement de ton royaume. C'est parce qu'elles avaient un cœur droit, un cœur qui s'est laissé convaincre par ta parole, alors que nous les hommes, nous sommes tellement résistants à ces choses. Seigneur, merci de les avoir amenés. Merci de pouvoir être au bénéfice de ce que tu leur as donné de faire. Et je voudrais te prier ce matin pour mes sœurs. Je voudrais te prier afin qu'elles aient cette humilité pour qu'elles rentrent dans ton plan, mais qu'elles aient aussi ce zèle de devenir des femmes d'influence, des femmes qui aient un cœur droit, un cœur sincère, prêtes à s'engager, prête à collaborer à ton plan. C'est à toi, Seigneur, que nous collaborons. Je veux te demander, Seigneur, d'enlever toute aigreur, tout ressentiment, tout sentiment de rejet, tout sentiment de peut-être négligence, de sous-entendu. Seigneur, que vraiment nous soyons en osmose avec ta parole à toi, parce que c'est elle qui nous change. Nous ne connaissons pas l'entier du plan, c'est toi qui l'as. Et si toi, tu as décidé de faire les choses dans un ordre, Seigneur, apprends-nous à le faire dans ton ordre. Je voudrais prier pour vous, mes sœurs, ce matin. Peut-être, vous aviez besoin peut-être d'entendre ce message ce matin. Peut-être, d'un côté, vous pensez que vous n'avez aucune valeur, que vous ne servez à rien. Ou peut-être, vous dites, moi, j'aurais aimé servir sous d'autres... dans d'autres choses. Mais Dieu a un plan. Alors si ce matin déjà vous aviez besoin d'être consolé, d'être restauré, d'entendre de la part de Dieu que vous avez une grande valeur à ses yeux. Si c'est le cas ce matin, vous levez juste la main, vous dites, Jean-Claude, j'avais besoin. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, oui. Oui, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Oui, oui, que Dieu vous bénisse. Et puis peut-être à vous qui voulez servir Dieu encore plus à fond, comme nos trois sœurs ce matin. Et qui peut-être cherchez à savoir comment bien servir le Christ. Qui vous dites peut-être, c'est le moment de choisir. Si vous voulez que je prie pour vous en disant, j'ai besoin de savoir comment Dieu veut m'utiliser. J'ai besoin de savoir dans quel ministère, de quelle façon. Alors vous levez la main, vous dites oui, je veux savoir. Oui. Oui, que Dieu vous bénisse, oui. Oui. Oui, que Dieu vous bénisse. À ces amis qui lèvent la main, j'aimerais vous rencontrer, pas forcément après le culte, parce qu'il est déjà bien tard, mais j'aimerais bien parler avec vous de ces choses, pour que vous puissiez découvrir. Seigneur, merci pour ces mains qui se sont levées. Merci parce que ta parole ne revient jamais sans effet, Seigneur. C'est ton texte. Ce sont tes mots. Je te prie, Seigneur, que toutes ces paroles, tu les fasses repasser dans notre cœur et qu'elles produisent des effets positifs pour toi, pour l'avancement de ton royaume et dans ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.